Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quand je serai grand, je serai astronaute.
Quand je serai grand, je serai actrice.
Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré le 23 octobre 2022 à la Gaîté Lyrique, lors du Paris Podcast Festival. Mon invité est Samora Curier. Né en Guadeloupe, il viendra s'installer à Paris en 2008 dans le cadre de ses études. Il est le producteur et réalisateur du podcast Moicast, sorti en 2018, suivi en 2023 par le Moicast Club. Tous deux destinés à mettre en avant les spécificités de la culture antillaise en mélangeant sérieux, humour et positivité. Ces épisodes traitent de sujets variés tels que la musique, l'histoire, la pop culture, l'actualité, les traditions et bien d'autres. Samora a partagé au micro des Enfants du Bruit et de l'Odeur son expérience de la scolarité entre la Guadeloupe et l'Hexagone, de l'interdiction de parler créole, du programme scolaire, de la réalité de cette expérience de migration et de la grande solitude qui l'a menée jusqu'à la dépression. Samora en a profité pour rendre hommage à ses enseignants guadeloupéens et militants qui lui ont appris indépendamment du programme scolaire l'histoire et la géographie de la Guadeloupe. Alors prenez place et bonne écoute. Samora Curier, bonjour.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Ça va très très bien.
Bon bah écoute, je suis vraiment ravie de te rencontrer pour de vrai aujourd'hui parce que je te suivais sur Insta, j'ai découvert ton podcast aussi, le Moicast. Ravie de rencontrer la personne qui réunit toutes les personnes qui savent prononcer le mot goyave correctement.
Ouais, alors je dirais même goyave.
Goyave, tu vois, même moi je ne sais pas le prononcer correctement. Bon, alors comment tu vas ?
Ben écoute, moi ça va, je suis content d'être là, c'est marrant d'être dans un studio professionnel, alors que moi je fais mon truc chez moi.
Ouais c'est ça, moi aussi c'est pareil. Ben écoute, je voudrais que tu te présentes un petit peu au micro des Enfants du Bruit et de l'Odeur, que tu nous expliques un peu qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu le fais.
Ok, je m'appelle Samora Curier, je suis guadeloupéen, je suis à Paris depuis 2008, j'ai grandi et vécu en Guadeloupe pendant toute ma jeunesse. Et ce que je fais, je suis le créateur du podcast et plus globalement de la plateforme Le Moicast, où je fais donc des podcasts, des lives sur Twitch, des vidéos sur Insta, etc. Pourquoi je le fais ? Parce que j'ai remarqué à un moment donné, ça faisait un moment que j'étais ici, qu'il y avait comme un angle mort sur les cultures antio-guyanaises dans le monde du podcast, dans le monde de la création de contenu globalement dans l'Hexagone, qu'on parlait très peu de nos cultures, de nos problématiques, etc., de notre actualité même. Et donc j'ai eu envie de prendre le micro et comme j'étais déjà fan de podcast, de faire mon propre podcast quoi, avec mes moyens. Et voilà, ça fait depuis 2018 maintenant que ça existe.
Ok, d'accord. Du coup, maintenant que tu t'es présenté un petit peu, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur toi, comment était le petit Samora petit, en sachant que tu viens de Guadeloupe, hein, c'est
ouais,
ça ?
Oui, tout à fait.
Tu es né en Guadeloupe.
Exactement, je suis né en Guadeloupe le 2 juillet 90, jour béni, n'est-ce pas ?
Ça va, tu te la fêtes pas trop là ?
Ouais, carrément. Ouais. Non, je suis né en Guadeloupe. Petit, on va dire que j'étais très curieux, très. J'aimais bien remettre en question les trucs, j'aimais bien. Poser plein de questions aux adultes, comprendre les choses, etc. J'étais plutôt bon élève, plutôt, mais en même temps bavard, tu vois.
D'accord.
Bon élève mais bavard, c'est-à-dire quand même il a du potentiel, mais il faut qu'il se calme en cours, faut le canaliser et tout. J'étais plutôt celui qui est un peu perturbateur parfois.
Et c'était comment ta relation à l'école ?
Bah moi j'aimais bien l'école, mais pas pour les élèves. Où c'était plutôt compliqué moi avec les autres élèves, mais plutôt pour l'idée de d'apprendre des choses, de sortir un peu de la maison. J'aimais le lieu en fait, la cour de récré, trucs comme ça. J'aimais bien être dans ce lieu-là, que ce soit quand j'étais en primaire, au collège, au lycée. J'aimais bien.
D'accord.
Ouais.
Et au niveau de ta famille, c'était quoi le rapport entre l'école et la famille? Parce que je me pose toujours la question. Enfin, ici, je sais qu'il peut y avoir des difficultés entre l'école et les parents racisés, les parents perçus comme racisés. Je pense qu'en Guadeloupe, c'est différent. Est-ce que les enseignants, d'ailleurs, sont guadeloupéens?
Oui, oui. Bah, en fait, en Guadeloupe, moi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir cette question. Alors, moi, mes parents sont des militants politiques depuis toujours, syndicalistes, indépendantistes, etc.
Indépendantistes?
Ouais, ouais. Donc, la question, c'est vrai que la question raciale en Guadeloupe, la question de rapport à l'histoire, tout ça. Donc moi, j'étais très sensibilisé à tout ça. Donc c'est vrai que j'étais au courant de ces choses-là. Mais au quotidien dans ma vie, je me suis jamais posé la question de savoir est-ce que j'étais minoritaire ou pas, puisque quand je sors dans la rue, je ne vois que des personnes noires ou indo-descendantes, tu vois, globalement, la plupart du temps. Il y a aussi des personnes blanches, etc. Mais on était vraiment majoritaire sur le territoire. Donc c'est vrai que je ne me suis pas trop posé la question à ce moment-là. Mais alors, le rapport avec la famille et l'école, moi je sais que j'étais un peu avantagé parce que je suis d'une famille de personnes qui sont très bouquins, très documentaires.
La culture était très présente à la maison.
Très présente à la maison. J'ai toujours été entouré de bouquins. À la maison, on s'amusait à faire des débats au déjeuner, parler du conflit israélo-palestinien à midi, et qu'on commence à midi puis on finit à 15h. On est toujours autour de la table avec les parents et tout. Donc c'est vrai que... j'ai toujours été sensibilisé à ça. Je me rendais compte quand j'allais à l'école que j'étais pas forcément toujours, sans prendre de haut qui que ce soit, tu vois, mais c'était pas une généralité, c'était pas quelque chose de répandu. Donc c'est vrai que j'avais un peu un avantage à ce niveau-là sur l'actualité et tout ça.
Il y a un truc qui m'a toujours un peu posé question, parce que j'ai entendu en fait le fait de nos ancêtres les Gaulois en Guadeloupe. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel en fait, ou est-ce que le programme scolaire est réellement calqué sur le programme scolaire de l'Hexagone, ou est-ce que c'est quelque chose qui est adapté, on va dire, à la scolarité, à l'histoire des personnes qui se trouvent en Guadeloupe?
Il y a deux aspects, je dirais. C'est vrai que on va pas se mentir, notre programme, il est très similaire, le programme du bac par exemple, très similaire à ce qu'on va avoir dans l'Hexagone. Et on pourrait se dire que voilà, on apprend des choses qui ne correspondent pas à notre quotidien. Là où, quand on apprend la géographie de la France, ben, quand tu habites dans l'Hexagone et que tu passes tes vacances à Orléans ou à Marseille, ben, t'apprends la géographie de ton territoire et voilà. Et donc, c'est vrai que on a cette partie-là. Mais il y a aussi des profs, et ça, je tiens à le dire, sont des profs guadeloupéens militants aussi pour l'éducation, pour aussi apprendre notre histoire, notre géographie, nos langues régionales. Et on a des profs incroyables. Je pense comme ça à Hector Poulet, Sylvain Telchit pour la langue créole. Mais il y en a plein qui ont créé leur propre livre d'histoire et de géo.
Oui.
Donc on a fait un troisième livre. Il y a un livre d'histoire, des livres d'histoire et de géo. On a fait un troisième livre créé par des professeurs guadeloupéens, martiniquais, guyanais qui fournissaient ça aussi aux élèves. Donc on avait, vraiment quelques feuilles, malheureusement, qui commençaient en plus avec l'esclavage, alors qu'il y avait peut-être...
Une histoire avant.
Mais c'était déjà un super travail qui a fait qu'on était quand même enracinés... Et on savait
et
de
comment
quoi
tu peux intégrer en fait un travail personnel comme ça dans un système, enfin dans l'éducation nationale. Comment il, enfin c'était comment? Comment ils pouvaient intégrer ça? C'était vraiment un côté volontariste au cas par cas individuel, ou est-ce que c'était quelque chose qui était distribué dans toute l'île?
Ça dépend des matières. Pour les langues culture régionales, c'est un programme global. Donc je me sens qu'en Bretagne, on apprend la langue bretonne. En Corse, c'est pareil, etc. Et donc, les langues régionales sont enseignées, sont au bac, il y a des examens reconnus et tout. Et les profs passent CAPES, je crois, créole, pour la langue créole. Donc, les langues créoles, d'ailleurs. Mais pour l'histoire, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est vraiment juste pour la culture. Mais par exemple, aux examens finaux, on n'a pas de choses sur le territoire, quoi. Donc, on apprenait des choses dans le programme, mais il ne me semble pas, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait... quelque chose de national sur ce sujet.
J'ai entendu dans un de tes épisodes dans le Moicast que tu parlais de l'importance de parler de l'enfance au sein de la Guadeloupe, que c'était quelque chose qu'on n'abordait pas assez.
Oui.
Dans quel sens tu disais ça?
En fait, j'ai l'impression que de la même manière que la vie d'un enfant qui naît en Europe a ses spécificités, a son évolution, le regard qu'on porte sur l'enfant aussi, il a évolué avec le temps. Il y a très longtemps, les enfants étaient vus comme des petits adultes qui pouvaient travailler, etc. L'image de l'enfant a évolué. Ben, je me dis que, par exemple, la question de l'enfance, la question de la manière dont on acquiert les connaissances, la manière dont on acquiert notre propre culture, qu'on apprend notre propre culture, notre langue régionale, etc. Enfin, tous ces éléments-là. Ben, il y a des choses à dire dessus. L'enfance de nos parents n'est pas la même que la nôtre, en fait. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'ouverture sur ces sujets. Et à l'époque de mes parents, par exemple, quand ils étaient enfants, ils n'avaient pas le droit de parler créole avec leurs parents. Ouais. Par exemple, c'était interdit. À l'école non plus. C'était vu comme une langue qui était presque sale, presque c'est la langue vulgaire, la langue du bas peuple. Mmh. Et avec le temps, ça a évolué. Et aujourd'hui, on entend beaucoup plus de gens qui disent « Oh, mais je parle créole avec mes parents », etc.
Marie Scondé en parlait très bien, d'ailleurs. Ah, la honte qu'elle pouvait avoir de parler créole et à quel point c'était mal vu au sein de sa famille. Mmh. Et elle se considérait... le fait de maîtriser le français parfaitement, ça rendait aussi un peu à la blanchité, en fait. Ça permettait d'avoir une espèce de blanchité.
Exactement, en fait. Cette langue, c'est assez récemment qu'on lui a redonné ses lettres de noblesse. Encore aujourd'hui, il y a assez peu de romanciers, par exemple, qui écrivent dans cette langue. Il y a des écrits, il y a des choses, hein, mais ce n'est pas aussi développé. Mais c'est vrai qu'à l'époque de nos parents, c'était vraiment quelque chose de très rare. Et on avait peur, en fait, que les enfants apprennent le créole, ne puissent pas parler correctement français, par exemple.
Ça vient d'où, cette idée ?
Je pense que c'est des idées. Ça vient de la colonisation, ça vient de bourrage de crâne, de père et de mère en fils et filles. Tu vois, c'est on reproduit des choses qu'on nous a inculquées, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais je pense que c'est aussi pour effacer notre propre particularisme et réussir finalement cette assimilation. Qui était voulu pendant la période coloniale. Ouais.
Assimilation qui signifie perte de toute identité.
Ouais, un peu ça. L'assimilation, c'est se dire que le jeune Guadeloupéen qui va naître en Guadeloupe, il aura exactement les mêmes références culturelles que le jeune garçon qui est né à Paris. Alors que peut-être que là, la question serait de dire comment est-ce qu'on peut apprendre aussi au jeune garçon qui est à Paris que la Guadeloupe existe, que s'est passé ça dans l'histoire, et qu'on apprenne inversement aux Guadeloupéens ce qui s'est passé dans l'Hexagone, pour que les deux puissent être au même rang. Parce que souvent, quand on arrive, en fait, on a l'impression de tout connaître de l'Hexagone.
Ouais.
Ah, les Français, là, Paris. J'ai l'impression d'avoir vécu à Paris alors que j'y vivais pas, tu vois. Ouais. J'ai l'impression d'avoir déjà été dans le 6e, dans le 3e et tout. Alors que quand je vais parler avec quelqu'un de ma fac quand je suis arrivé, que je parle de la Guadeloupe, c'était cliché sur cliché, une méconnaissance assez... importante, voire parfois des trucs un peu crasses sur nous, quoi, tu vois. Et tu dis, mais c'est bizarre comment moi j'arrive en ayant tant de références, tant de connaissances sur toi, et toi, tu n'es resté qu'en surface me concernant. Est-ce que ça veut dire que je suis pas important? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de valeur? Et des fois, tu te poses ces questions, tu vois.
Ouais, mais je comprends tout à fait. Moi, je viens de Madagascar, je suis née à Madagascar. Et même si je suis arrivée à l'âge de 9 ans ici, j'avais l'impression d'avoir énormément de connaissances sur la France.
Ouais.
Et quand je disais que je venais de Madagascar, alors déjà les gens me disaient malgachien. Enfin, ils savaient pas comment on appelle en fait une personne venant de Madagascar. Et ils savaient même pas où ça se trouvait.
Bien sûr.
Et moi, j'ai été impressionnée de se dire, mais en fait, ils apprennent quoi à l'école ici? Ils apprennent quoi en fait à...
Ouais.
J'avais l'impression qu'il y avait un manque de connaissances qui était incroyable, un manque de curiosité. Et puis, j'avais souvent entendu dire que la France était le pays de la culture. Et je me dis, mais alors, ça s'arrête où, la culture, en fait?
C'est quoi? Qu'est-ce que la culture?
Ouais, qu'est-ce que la culture?
Et il y a la question aussi, par exemple, des personnages historiques. Si on prend Napoléon Bonaparte, par exemple, pour les personnes de l'Hexagone, c'est un grand homme. Napoléon a fait la France telle qu'elle est, tu vois, presque. C'est le code civil, c'est plein de choses. Napoléon, c'est important, tu vois, pour la France. Et chaque année, on le célèbre. D'ailleurs, cette année, on a fait une grande célébration autour de lui. Macron qui a fait un super discours, machin. D'ailleurs, il a pas fait de discours pour la commémoration de l'esclavage, mais ça, c'est un autre sujet. mais en fait, pour nous, Napoléon, c'est qui? C'est la personne qui, en 1802, a cherché à rétablir l'esclavage qui avait été aboli en 1794, en Guadeloupe. Donc, on a eu deux abolitions d'esclavage. On a eu une première en 1794, puis après, on a eu une en 1848, parce qu'entre-temps, Napoléon l'a fait remettre dans le sang, d'ailleurs, parce qu'il y a eu une guerre de Guadeloupe en 1802, etc. Mais ça, les gens ici ne le savent pas.
Mais comment on gère justement cette histoire en Guadeloupe quand ça arrive dans le programme? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment les enseignants l'abordent et comment c'est perçu?
Alors, j'ai assez peu de souvenirs, c'est très honnête. Je me souviens plus exactement. Je sais que quand on a abordé le sujet de l'esclavage, par exemple, Tu sentais que notre prof, alors on avait des profs vraiment, comme je disais, des profs militants, des profs qui se battaient pour qu'on intègre ces éléments-là. Et quand on a abordé le sujet de l'esclavage en cours d'histoire, je me souviens, ça c'était en CM2. Monsieur Nicolas, mon prof de l'époque.
Bonjour, monsieur Nicolas.
Ouais, bonjour, monsieur Nicolas. J'espère que vous allez bien parce que vous avez beaucoup marqué ma vie pour le coup. Et il avait à cœur de faire comprendre la dureté de cette période là, et que c'était pas juste des gens qui travaillaient, malgré ce que certaines personnes parfois dans les médias hexagonaux peuvent dire, et qu'il y avait de la souffrance, qu'il y avait de la torture, qu'il y avait des gens qui mouraient pendant le trajet, etc. Et c'était super intéressant d'avoir un prof qui arrivait à mettre ça en perspective avec la grande histoire qu'on nous apprend, qui est dans le programme, quoi.
Puisqu'il y avait beaucoup de livres au sein de ta famille, vous en parlez aussi du manque de représentation au sein des livres avec tes parents. Est-ce que c'était quelque chose, parce que quand tu me parles que tu étais au courant des conflits géopolitiques à l'extérieur, qu'il y avait l'introduction de la langue créole dans certains livres? Est-ce que tu avais des représentations, des livres avec lesquels tu avais l'impression d'être...
Dans les programmes, on essayait toujours d'avoir des choses. Donc, à la maison, j'avais du Maris Condé, du Gisèle Pinault, du Aimé Césaire. Aimé Césaire, par contre, pour le coup, je pense
c'est
que...
C'est grand, ça, tu vois, petit.
Tout petit, Gisèle Pinault, moi, je pense que c'est le premier livre que j'ai lu qui parlait vraiment de nous, jeunes anti-guyanais et tout, c'était Caraïbes sur scène de Gisèle Pinault. Qui est en fait une histoire de correspondance, une jeune Guadeloupéenne qui est correspondante avec une personne dans notre pays, je sais plus exactement lequel, et le jour où ils se rencontrent, ils se rendent compte qu'elle est pas la française qu'il espérait rencontrer, et du coup elle se retrouve face à son altérité, et dire en fait moi je suis française, mais pourtant quelqu'un de l'extérieur qui veut rencontrer une française, il pense pas à moi quand il... Et du coup il y avait ce bouquin, et donc à la maison on avait beaucoup de livres de Marie Scondé. Il y avait un livre aussi sur l'esclavage qu'on avait acheté aussi, qu'on avait eu dans un salon.
Et c'est toujours des représentations sur l'esclavage.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Donc, pas des choses, par exemple, avec un jeune Guadeloupéen qui pourrait, je sais pas moi.
C'est une bonne question. Tu sais quoi, c'est une très bonne question. Là, comme ça, par exemple, moi à la maison, ma mère était fan de science-fiction. Mm-hmm. Ma mère est toujours fan de science-fiction, d'ailleurs. Babylone 5, pour ceux qui connaissent, Star Wars, etc. Donc, moi, ce qui m'a inculqué, c'était avant même de parler de littérature et de représentativité, c'était la science-fiction, c'est un unité des univers où tout est possible, se projeter dans le futur, etc. C'était plus ça que le rapport que j'avais avec la littérature avec ma mère, bizarrement. Donc
dans la science-fiction, il n'y avait pas de Guadeloupéen.
Et c'est marrant, il n'y a pas encore l'afrofuturisme qu'on peut voir maintenant. Enfin, il existait déjà, mais je ne sais pas chez nous.
Mais en tout cas, tu n'y avais pas accès.
Non, j'y avais pas accès, non.
Donc, le petit Samora a grandi. À quel âge t'es parti de Guadeloupe, du coup?
Je suis parti à 18 ans, donc après mon bac, sans trop savoir pourquoi. Ça, c'est comme beaucoup, hein, c'est un peu fou de le dire. Il y a un réflexe, en fait, après le bac, j'en parle dans le podcast aussi, c'est un peu, on se dit, ok, j'ai 18 ans, j'ai eu mon bac, je fais quoi? Et je pense que les 80%, pour pas dire plus, se disent, je vais en France, en hexagonale, et je vais faire des études là-bas. Je suis dans une école ou à la fac, et on ne sait même pas vraiment quels sont les programmes ou les cursus. À part les cursus d'excellence, tu vois, par exemple, il y avait des petites filières pour aller à Sciences Po.
Les prépas,
etc. Mais quelqu'un comme moi qui était... je n'étais pas non plus dans une démarche de faire Sciences Po ou quoi. Je suis arrivé sans vraiment savoir ce que j'allais trouver. Et donc le choc a été assez brutal.
Mais comment t'as préparé ça justement? Ça veut dire que t'as été voir une conseillère d'orientation, on t'a dit qu'il fallait que tu partes, ça se passe comment après le bac en Guadeloupe?
Alors, c'est mon expérience, je vais pas parler pour tout le monde, mais mon expérience c'était, on va au CIO, donc un truc pour l'orientation. Tu veux faire quoi? Je sais pas, quelque chose de général, je suis plutôt pas mauvais dans différents domaines, donc qu'est-ce que vous me proposez, quoi? Et c'était des trucs... faire des lettres, une fac de lettres ou une fac de droit, c'était assez vague.
Les facs de lettres peuvent se faire en Guadeloupe.
C'est ça, mais j'ai pas spécialement été orienté pour continuer à Fouillol, donc à l'Université des Antilles qui est en Grande-Terre. On va pas forcément pousser vers là, c'était plutôt en mode, tu vas partir de toute façon.
Ça faisait déjà partie en fait du processus.
Le seul truc qu'on a eu qui était un peu différent, mais c'est pareil, c'est encore un départ, c'était des représentants de l'université qui s'appelle Moncton University, donc c'est au Canada, je crois, et qui nous disaient, vous pouvez venir au Canada faire des études et tout, machin. Mais sinon, c'était assez automatique, quoi.
Il y avait quand même une volonté de départ, ou ça faisait partie du processus.
Oui, pour moi, et il y avait ce côté aussi, il ne faut pas se mentir, de se dire, bon ben, c'est vrai que partir, on va quitter le cocon familial, faire une nouvelle vie, se réinventer. J'étais quand même super content de partir. Hein. Dans ma tête, c'était la libération presque, de sortir un peu des carcans que j'ai connus, sortir du giron parental, avoir mon appart, etc. Donc, ça représentait un peu la liberté. Et puis, il y a aussi un truc aussi qu'il faut dire, c'est que en Guadeloupe, en Martinique, on a une sorte de réflexe vers le départ qui vient d'un truc qui s'appelle le BUMIDOM.
Oui.
Donc, c'est le Bureau des Migrations, département d'Outre-mer.
Qui a été créé en 1970.
68, non
68.
Je crois que c'est... Alors, désolé ceux qui écoutent si jamais c'est pas la bonne date, mais
Les années 70. Dans les années,
voilà, à peu près. Et donc, c'est un bureau qui était chargé de faire venir du monde, en fait, ce qui manquait de bras, de main-d'œuvre dans certains domaines.
Et le domaine public, comme les uns à l'hôpital, en tant qu'infirmier, à la poste. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup plus de personnes venant des Outre-mer dans ces institutions publiques.
D'où vient les clichés un peu agaçants, parfois, de... La Marie-Thérèse des inconnus, là, de Pascal Légitimus, enfin bref. Bref.
Ça sent le...
Ouais, Pascal Légitimus, on l'apprécie beaucoup. Alors, du coup, non mais... Donc oui, donc il y a ce réflexe. Donc en fait quand mes tantes et oncles étaient plus jeunes, dans ce genre de leur génération, il y avait un peu le réflexe genre, venez, c'est génial en fait, vous allez avoir du travail, avoir des conditions de vie super, des beaux logements, venez dans l'Hexagone. Après la Réunion, il y a eu le côté encore plus sombre, on a quand même pris des enfants.
La Creuse.
Les enfants de la Creuse, on les a pris, le BUMIDOM, ils les ont mis dans des familles, ils se sont fait exploiter par des familles dans la campagne et tout.
Alors là, tu soulèves aussi quand même le fait le manque de considération de la parentalité et du statut d'enfant aussi. Parce que c'est vrai que dans les enfants de la Creuse, il y a clairement un enlèvement d'enfants, des enfants qui ont été volés pour pouvoir servir aussi de main-d'œuvre et repeupler une région qui était la Creuse. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas eu réparation, il n'y a pas eu de suivi. Ces enfants doivent se débrouiller par eux-mêmes pour retrouver leurs parents, leur famille et se réparer, on va dire.
Ouais. D'ailleurs, il y a un super documentaire, L'enfant déraciné, qui est sorti chez Binge. Donc, si ça vous intéresse de savoir ce qui est passé, le drame que ça a fait dans les familles, parce qu'on leur a dit, vous allez retrouver vos parents, ne vous inquiétez pas. Et finalement, 30 ans plus tard, ils ont jamais retrouvé leurs parents, quoi.
Mais donc, ce truc-là, en fait, ça se retrouve un petit peu. Nous, quand on a créé le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur, on voulait aussi dénoncer ça. C'est ce côté. Le manque de considération de la parentalité, de la sphère familiale, on va dire, que les personnes racisées peuvent vivre. Mais que ça soit la Guadeloupe, la Martinique, il y a quelque chose qui se joue derrière ça sur la parentalité.
En fait, il y a quelque chose de très colonial en fait, dans cette façon de voir l'autre et de nous voir comme un peu comme des biens dont on peut disposer, quoi. On a besoin de remplir un espace, on a un endroit, un réservoir de meubles, quoi, un peu, voilà. Et on va prendre ces meubles et les poser ailleurs. Et puis, ils n'ont pas d'émotion, et puis, il n'y a pas d'attache. Et puis, c'est tellement pire là où ils vivent, et qu'ils ont forcément envie de vivre dans la Creuse, quoi. Ils ont forcément envie de travailler dans les PTT ou être secrétaire à l'hôpital parce que c'est forcément mieux que la vie qu'ils ont, alors que non.
Et sans aucune préparation, pas d'adaptation, par exemple, dans ces systèmes, quand on parle des PTT, mais bon, que ce soit dans les hôpitaux publics, il n'y a pas eu de préparation pour accueillir les personnes venant de Guadeloupe, se disant, culturellement, ça peut être un choc quand même, familialement, ça peut être difficile. Il n'y a pas eu de mise en œuvre, comme on peut faire, par exemple, quand on parle de personnes expatriées, où on va...
C'est un projet.
Construire un projet autour.
C'est vrai, d'ailleurs, la question de l'expatriation...
C'est pour ça que j'ai mis les guillemets, parce que ce mot, je le trouve tellement hypocrite. Expatrié, c'est des personnes blanches qui iraient ailleurs, ils ne sont pas immigrés, et puis tous les autres, ce sont des immigrés. Donc,
oui, c'est ça, exactement.
Mais bon, on ne va pas parler de ça. sur toi.
Oui, mais je sais plus ce qu'on disait, du coup.
Oui, donc tu parlais, en fait, des raisons pour lesquelles on était poussé en Guadeloupe à venir, en fait, sur l'Hexagone.
Et donc, ça vient de là, et donc, du coup, beaucoup de jeunes, on est des milliers, je crois qu'aujourd'hui, il y a près de 300 000 jeunes qui sont chaque année, qui viennent comme ça, et ça vit de les territoires d'ailleurs, d'une force, parce que beaucoup peu reviennent. D'ailleurs, c'est un peu la question du retour au pays, c'est un vrai débat en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et je pense ailleurs aussi, c'est les enfants qui sont partis, qui sont allés, qui sont étudiés, qui ont appris des choses, pourquoi ils reviennent pas? Et puis, quand ils reviennent pas, du coup, c'est c'est des savoirs qui sont pas partagés, c'est des projets qui sont pas mis en œuvre. Et donc, moi, la question se pose pour moi, comme elle se pose pour pas mal d'amis, etc.
Et je pense qu'il y a un espèce de fantasme quand même derrière tout ça. À chaque fois, quand on est parti de quelque part, il y a cette volonté de vouloir revenir. Et on est changé aussi par le quelque part où on arrive.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, comment s'adapter après? Comment repartir avec toute cette charge aussi qu'on a pu prendre ici, quoi, on va dire.
En fait, ce qui se passe souvent, c'est que tu as un premier choc quand tu pars et que tu arrives en France. Et
tu vas nous en parler de ce choc?
Ouais, c'est ça. et puis, il y a un autre choc quand tu reviens où, du coup, tu t'es changé pour l'instinct de survie, quoi.
Ouais.
Donc, tu t'es changé, tu es devenu peut-être plus dur, peut-être plus...
Moi, je pense qu'on a aussi intégré des stéréotypes et des préjugés qu'on aurait pu avoir ici. C'est comment intégrer le regard des autres aussi, on va dire. Et c'est, je trouve que c'est compliqué parce qu'on se comporte totalement différemment et avec un regard beaucoup plus critique quand on revient aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que, du coup, comme tu pars et que tu changes, en fait, tu évolues, par mimétisme, en fait, tu deviens un peu... à Rome, tu es comme les Romains, quoi. Et quand tu rentres, du coup, au pays, tu te rends compte que t'as changé, en fait. Et au départ, tu penses pas que t'as changé, tu penses que c'est les autres qui ont pas bougé. C'est ça que tu te dis. Tu dis, mais en fait, les gars, faut machin. C'est un petit côté un peu arrogant, même, parfois, que tu peux avoir avec les autres. Et c'est après que tu prends du recul. Comme moi, c'est comme ça. Je dis, mais en fait, ils ont pas besoin d'être comme les Parisiens ou comme les Toulousains ou quoi. C'est la Guadeloupe, elle est comme elle est. Et c'est à moi de me réadapter, finalement, au mode de vie, quoi.
Quand t'es arrivé ici, ça s'est passé comment? Tes premiers moments
C'était horrible. Horrible. J'ai beaucoup pensé à repartir 6 mois après, à Noël.
C'était pour quel cursus?
Je fais du droit à Descartes, Paris 5. Horrible. Horrible, cette fac. Non, moi, je dis les choses.
Bon, tu en fais de la pub hein, pour la fac, là, du coup. Ceux qui veulent y aller.
N'allez pas à Paris 5, n'envoyez pas vos enfants à Paris 5. Non, Paris 5, donc j'arrive là. En fait, aucune préparation. Ma mère a fait ce qu'elle a pu. Elle a mis en place un budget et tout. Déjà, trouver un logement.
Vous avez dû, en fait, mettre en place un budget. Vous n'avez pas de bourse pour y...
Non, j'étais pas boursier parce que mes parents, ma mère était sage-femme et mon père avait une entreprise. On était un peu au-dessus des trucs, donc pas de bourse. Pas d'aide non plus de l'ADOM, ce qui est un truc. L'ADOM, le BIMIDOM est devenu l'ADOM. Il donne de l'argent aux étudiants pour rester. Je crois que c'est 3000 euros par an ou tous les 2 ans, un truc comme ça. Sur 2 ans, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal. Mais bon, non, on n'avait pas toutes ces aides, donc en fait c'était avec nos sous, quoi. Alors c'est là que je me suis confronté directement à la problématique de trouver un logement quand t'es une personne noire, et du coup je me suis dit, mais c'est marrant, j'avais pas cette question avant.
Étudiant, surtout, trouver un logement loin de tes parents, à 8000 kilomètres de là.
Alors on est en France, tu vois, quand même, la Guadeloupe c'est la France administrativement, et ce qui est drôle, c'est quand la personne qui possède le logement te dit, mais attendez, vous avez payé un loyer, mais vos parents sont pas là, en fait, comment ça se passe? Et dans ma tête, je dis, mais le loyer, il prend pas le bateau, il vient pas à la nage, le loyer, en fait. Il y a un système bancaire qui est décentralisé, on passe par des sites, quoi, pour faire des virements, quoi. Et ils pensaient qu'en fait, on peut pas faire de virements de la Guadeloupe à l'exemple. Enfin, les gens, c'est la même méconnaissance encore des trucs. Et du coup, il y a plein de gens qui me disaient, ah non, désolé, en fait, on prend pas de locataires issus des dom-tom parce que, vous voyez, c'est compliqué. Puis on a eu des problèmes avec une famille, des trucs, c'est du vaudou, peut-être. Je sais pas. Non, mais tu vois.
C'est parti loin, quand même.
Non, là, j'exagère, tu vois, mais tu sais, les gens qui ont des trucs, donc ils veulent pas, très compliqué, tous les logements qui étaient un peu abordables, tu vois les files d'attente d'étudiants et tout, quand tu vois que t'es la seule personne noire et tout, au départ tu dis non, c'est pas un lien, puis au bout de 10-20 visites, tu vois, tu dis bon, peut-être que c'est ça le problème et tout, donc quand tu commences à voir plein de gens, tu dis bon ben allez, on laisse tomber,
t'auto-censure du coup, tu perds pas ton temps, quoi.
Et du coup ma mère est partie, j'ai pas de logement, parce qu'il fallait qu'elle rentre travailler. Et j'ai pas de logement.
Donc t'es resté tout seul ici
chez des amis, puis chez un cousin qui me laissait un appartement à Deuil-la-Barre. Quand tu viens de Trois-Rivières en Guadeloupe avec la plage, le soleil et tous les trucs et que t'arrives à Deuil-la-Barre, c'est compliqué, là en automne. Non mais j'adore, j'ai adoré, hein. Non pas du tout.
Mais j'ai adoré,
non, arrête de mentir. Non mais c'était sympa, mais du coup quand t'arrives à Deuil-la-Barre d'un coup, que c'est une cité dortoir, que tout le monde s'en va la journée, toi t'es toujours là, t'as pas encore commencé les cours et tout, enfin bon, c'était vraiment dans une tour, quoi, dans une tour abominable, quoi. Et ensuite quand les cours commencent, faire des potes, créer du lien.
Mais comment t'as fait, comment en fait?
Ah oui, du coup on a eu de la chance.
Ouais.
Bon, Chance, on a quand même payé, parce qu'on a trouvé un logement beaucoup plus cher. C'est presque 900 euros de loyer à l'époque, c'était... c'est un loyer pour des couples, quoi, des familles, quoi.
Ouais.
Et donc, à l'époque en tout cas, et donc on trouve un logement dans le 6e, à Odéon. Mais ce qui se passe, mais pourquoi ? Parce que la meuf de l'agence était en couple avec un Martiniquais.
Ah.
Et elle a eu un petit truc un peu paternaliste, ou je sais pas comment on dit paternaliste, mais de mais finalement c'était cool, quoi. Donc ouais, là je me dis, je vais pas te mentir, j'ai kiffé, j'ai accepté, tu vois. En mode, ah mais t'inquiète, c'est la Martinique, c'est comme la Guadeloupe, c'est pareil. Écoute, on va faire ensemble.
Là tu dis rien, même si c'est pas pareil. Ah, oui. Genre, ouais,
oui,
c'est
mais
pareil,
on est des frères, c'est exactement la même chose. Mais moi je traverse la rue, je suis en Martinique.
C'est ça. T'as besoin de te loger, donc y a pas de soucis stéréotypes, j'accepte.
Donc du coup j'ai dit, ouais, ok, let's go, comment ça se passe, quoi. Et donc du coup elle me dit, bon, on a un truc, c'est un peu cher, mais bon, c'est tout ce qu'on a, c'est un petit studio, mais bon, voilà. Et donc je suis resté là-bas, mon propriétaire, bon, on ne parlera pas, mais c'était assez, c'était quand même cool d'avoir un logement dans un bon quartier, pas loin de la Sorbonne et tout, Biotech Sainte-Geneviève et tout, pour bosser. Okay. Donc c'était quand même cool, j'ai eu de la chance.
Donc tu as pu avoir ton logement et tu as pu reprendre tes cours.
J'ai pu reprendre les cours et les cours...
Ben, ce qui n'arrive pas à tout le monde, hein. Il y a quand même des gens qui vivent dans la rue.
Oui, oui, voilà. Bien sûr.
Je dis ça parce que j'ai rencontré une jeune fille comme ça qui venait faire ses études en France.
Bien sûr.
Et qui s'est retrouvée en fait à la rue dès le début parce qu'elle ne trouvait pas de logement.
Ouais.
Et pourtant c'était en Normandie, c'était pas à Paris. Elle trouvait pas de logement. Ils avaient pas prévu ça, plus assez de budget.
Mmh.
Et du coup elle s'est retrouvée à la rue et elle devait gérer entre ses études, la rue, dormir dehors et tout ça.
Bien sûr. Ah moi je suis conscient. Hein. Moi en Guadeloupe, je fais quand même partie d'une forme de petite bourgeoisie quand même. Et je sais que niveau économique et tout, on a pu s'en sortir. Mmh. Je sais que j'ai d'autres amis qui ont été dans des situations, déjà ils ne pouvaient pas rester à Paris, donc ils ont dans d'autres villes, bon pourquoi pas d'ailleurs, voilà. Ensuite il y a des gens qui étaient dans des squats, qui passaient d'appartement en appartement, j'ai connu plein de cas de gens qui n'avaient pas cette possibilité-là, donc je sais à quel point, malgré les difficultés que j'ai vécues, que je reste un cas très particulier où mes parents pouvaient m'envoyer de l'argent tous les mois.
Parce que 900 euros par mois, c'était en quelle année ?
En 2008.
En 2008, c'était déjà énorme en fait.
Ah oui, oui, bien sûr.
Non, alors là,
non, j'ai deux sœurs.
Donc ils ont fait pareil pour chaque enfant ?
Non, on va pas rester. Moi, j'ai eu beaucoup de chance.
Okay.
La grande a dû vraiment se débrouiller seule. Et la petite, c'est un peu plus compliqué déjà. Bon, bref, désolé.
Il y a aussi une histoire budgétaire, on va dire, qu'il faut prendre en compte quand on vient, par exemple, de la Guadeloupe et qu'on doit faire ses études ici en Équateur.
Bien sûr, il y a un coût qui est économique qui est incroyable. Et même, je dirais, économique et psychologique, qui est assez énorme. J'ai eu des cas, par exemple, d'amis qui sont allés dans des familles proches de leurs parents, par exemple, qui ont une maison dans le 94, par exemple, dans ce cas-là, avec une famille qui les détestait, quoi. Qui veut pas les supporter.
Dans quel sens ?
Qui avait accepté de les prendre chez eux, mais qui ne voulait pas entendre parler d'eux, quoi. Et donc, du coup, tu arrives dans le logement et tout, et quand tu rentres des cours, tu as des gens qui te parlent trop mal. Alors, pas de violence physique ou quoi, mais tu sens que tu es de trop. Et tout, et je sais que voilà,
puis c'est pas la porte d'à côté, quoi. Si tu viens par exemple de Normandie et que tu viens faire tes études à Paris, tu rentres le week-end, là t'as 8000 km, tu vois pas ta famille, t'es tout seul, donc et si ça se passe mal, t'es tout seul, t'es livré à toi-même, voilà.
Tu mens. Oui, moi j'ai plus... beaucoup menti, ça on peut en parler, j'ai fait la paix avec ça, on en parlait avec mes parents et tout. Mais donc le droit s'est très bien passé, mais j'ai pas osé dire que ça se passait mal, donc je faisais des cours. Je me souviens d'un cours où ma note sur mon prof, quand il m'a remis ma feuille, il m'a dit, bon, au moins vous avez la santé. en mode, c'est tellement nul ce que vous faites, mais au moins vous êtes en vie, donc ça va. Mais du coup, ça se passait trop mal. Du coup, j'allais plus en cours. J'allais plus. Je réfléchissais à qu'est-ce que je dois faire, ce que je dois demander de rentrer, à abandonner et tout. Et j'ai trouvé une opportunité de reprendre des études de zéro en BTS, communication, en alternance. Donc pour pouvoir aussi soulager mes parents financièrement. Mais je n'osais pas leur dire, en fait, que
ça se passait mal.
Du coup, je leur disais que je continuais le droit et tout, mais que je faisais un truc en alternance. Et que du coup... Mais je disais que je continuais le droit, quoi. Et c'est quand j'ai eu mon diplôme, mon BTS, que je leur ai dit, en fait, j'avais changé de parcours et tout. Ils étaient trop, trop déçus. En même temps, ils étaient contents pour moi. En même temps, mais fais-nous confiance et tout. Mais ouais, j'étais...
Ouais, mais ils étaient déçus parce que le droit, ça représentait quelque chose en particulier.
Non. Alors non, pour le coup, ils m'ont toujours laissé la liberté de faire ce que je voulais. Mais c'est plus là, on est loin, on sait pas ce que tu vis, en fait. Tu nous dis pas ce que tu vis et on sait que... On sait pas ce qui peut se passer, quoi. On pense que tout va bien, que t'es équilibré, que ça se passe bien pour toi et par honte, tu veux pas nous dire les choses. Tu devrais avoir plus confiance en nous. C'était plus ça, le truc.
Et pourquoi t'avais honte ?
Ben, j'avais honte parce que pour moi, il y avait ce côté échec, quoi. Je suis parti hyper sûr de moi, je vais devenir avocat peut-être ou quoi, alors que j'avais même pas vraiment envie de ça en vrai, mais bon. Mais bon, voilà, je vais faire ça, je vais faire le barreau, ça va être incroyable. Et échec sur échec, redoublé, truc, et tu te dis, mais ça marche pas, quoi. Et j'ai jamais été confronté à ça, j'ai jamais redoublé avant et tout. Et donc, je me disais, mais je suis une honte, quoi, je suis un échec sur pattes, quoi. Et donc, je ne pouvais pas leur dire, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de changer et d'attendre de réussir quelque chose pour leur annoncer, bon, ben, je suis capable de faire quelque chose, je ne suis pas un échec, quoi. Et d'ailleurs, ben, du coup, après, j'ai pu rentrer au Gobelin pour devenir designer et tout. Et c'est là où tout le temps, je leur disais ce que je faisais, quoi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais trop fier et tout. Mais toute la partie droit et tout, c'était dur, quoi.
Et tu gérais comment, du coup, les Noëls? Tu rentrais à chaque fois?
Non, bah en fait, c'est hyper cher hein, de rentrer. Hein. Mmh. C'est ça, beaucoup ne se rendent pas compte. Quand tu es né à Paris, quand tu disais, ou tu es en Normandie, ou de Marseille, etc., tu rentres, tu prends un TGV, et puis t'es, ou un train, et puis voilà, t'es chez toi. Et ça te coûte, allez, maximum 100 balles, peut-être moins, tu vois. Nous, un billet d'avion, aller-retour, Paris-Pointe-à-Pitre, c'est au bas mot, en haute saison, c'est 1000 euros plus, voire plus. Donc, tu réfléchis, en fait, à quel moment tu... Parce que même si on avait un peu les moyens et tout, c'était pas non plus la fête, quoi. Donc, il fallait... Moi, je rentrais que en juillet-août, les deux mois, les vacances, comme ça, je pouvais décompresser et tout. Mais Noël, tous les Noëls, je les ai fait seul.
D'accord. Ouais.
J'avais ma grande sœur qui était là, mais c'est vrai que c'est sa vie et tout. Donc, il y en a beaucoup que j'ai fait seul. Les Nouvel An, tous les Nouvel An seul, pendant 10 ans, genre.
Mais c'est chaud quand même.
Ouais, ouais.
Genre, tu pars de chez toi, t'es loin, et en plus, tu passes toutes les fêtes de famille, ouais, là où il y a des gens qui sont quand même...
Ouais. Alors, je dis seul, non. Parce que je suis en couple, on est en couple plus longtemps. On va dire que les premières années, j'ai fait tout seul. Et après, bon, j'étais avec ma compagne, on faisait ensemble, quoi. Mais sinon, les 3-4 premiers Nouvel An, j'étais tout seul.
Ok. Voilà. Ça n'aide pas non plus à réussir ses études, en fait, je trouve.
La dépression, quoi.
Voilà, c'est ça, la dépression, quand tu viens de... Ouais. Et t'as fait comment pour gérer ça? T'en as parlé à d'autres personnes?
Non, j'en parlais pas trop. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé à personne. Là, on en parle, mais j'en ai jamais parlé à personne. Mais cette période 2008-2011, on va dire, voilà, 2008-2011, c'était... J'avais l'impression d'être d'avoir un nuage au-dessus de la tête tout le temps. De me dire, mais pourquoi je suis parti, j'aurais dû rester, j'ai fait une erreur et tout. T'as la sensation que tu t'es imposé, en fait, tu t'es mis dans une prison, t'as jeté la clé tout seul. Et j'avais besoin de marcher dans la rue et d'être dans une cage, quoi. C'est très bizarre, quand même. J'ai du mal à l'exprimer. Et j'avais du mal à être bien, quoi. Il y avait des moments quand même où j'étais heureux, où je voyais des potes de fac et tout, et on rigolait, mais une fois que tu rentres chez toi, que tu fermes la porte et que t'es tout seul le week-end, t'as rien fait, et qu'on te dit « t'as fait quoi ce week-end ?» Mais en fait, j'étais chez moi, et j'en ai la télé, ou parce que je tournais en rond, et t'oses pas le dire, tu vois. Et j'ai l'impression que ma vie était sur pause, quoi, pendant ces premières années. Et après, ça a changé, parce que j'ai eu des amis qui étaient là-bas, qui sont venus aussi. Et c'est vrai que quand tu retrouves tes pères, entre guillemets, des gens qui ont les mêmes parcours que toi, j'avoue que ça m'a un peu sauvé.
C'est vrai que quand tu dis, en fait, d'avoir jeté la clé tout seul, je comprends ce que tu dis mais en même temps, c'est pas toi qui ai choisi ça, c'était limite un chemin naturel de venir ici.
Ouais, mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres jeunes qui, pas forcément de familles plus militantes que la mienne d'ailleurs, mais qui, eux, avaient décidé, moi, je suis Guadeloupéen, il y a de quoi étudier en Guadeloupe, je reste en Guadeloupe, autant que possible. Donc, médecine, ils ont fait médecine en Guadeloupe, ils ont fait bio, etc. là-bas.
Est-ce que c'est une culpabilité, du coup, d'être parti?
Moi? Oui, je me sentais coupable. Je me disais, mais en fait, j'étudie dans un domaine que j'aime pas spécialement en plus, donc il n'y avait pas vraiment besoin que je me casse, quoi. Mais je l'ai fait parce qu'il y avait un côté peut-être un peu, à la fois un peu d'orgueil, de se dire, je vais dans la grande ville, voilà, et puis de dire, c'est aussi un chemin naturel si je veux réussir. Mais en fait, je vois d'autres gens qui n'ont pas fait ce choix-là et qui réussissent très bien, donc... C'était un peu un choix débile. Mais je n'osais pas dire « je veux rentrer ». Donc je me suis dit, non, j'ai persévéré. Tu sais, limite, je me punissais, tu vois, et en restant. Tu vois. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
Mais tu vois, ce que tu me dis là, je trouve que ça rappelle un peu... Bon, t'es pas immigré puisque t'es guadeloupéen, mais c'est des parcours d'immigration, dans les parcours d'immigration où ça se passe mal, parfois. Même il y a des gens qui dorment sous les ponts et qui prennent le téléphone et qui font du genre, tout va bien. Et une fois qu'ils raccrochent, ils sont au bord du gouffre, tu vois.
Et moi, je me sens immigré, moi. Enfin, d'ailleurs, pour l'INSEE, il me semble qu'on est compté comme des
immigrés.
Ouais. Ça, j'avais vu ça en cours de socio, on avait fait un truc là-dessus.
Donc, c'est français ou c'est pas français? T'es français ou t'es pas français?
Il y a des parcours d'immigration. Il y a un parcours d'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un territoire, on a une culture, on a des trucs. Et puis, quand on arrive, on est dans une nouvelle culture, en fait. Donc, moi, personnellement, je considère les ultramarins qui viennent dans l'Hexagone. On vit dans les mêmes quartiers souvent, la plupart du temps. On a les mêmes codes souvent. On a les mêmes difficultés. Moi, je vois pas beaucoup de grosses différences. Enfin, il y a des différences administratives, on va dire, sur les papiers, etc.
Qui n'est pas rien.
Bien sûr, on a le bon passeport entre guillemets directement. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, on est souvent assez proches. Mm-hmm. Moi, j'ai pas mal d'amis qui viennent un peu de partout, aussi qui ont des parcours d'immigration ou de parents, ou ils sont carrément nés à l'extérieur, qui sont venus. Et on s'entend. On a des
codes,
des références communes.
Je reviens un petit peu sur la Guadeloupe. Il y a quelque chose qui a été dit en 2019. C'est pour ça que je te parlais un petit peu de comment se passait le système scolaire en Guadeloupe, qui a fait un peu polémique. Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle, non? Qui a fait polémique en 2019, le 3 janvier, Ségolène Royal. Donc,
sur les enseignants qui vont en Guyane.
Sur le fait, en fait, que des personnes, des enseignants pédocriminels seraient envoyés systématiquement, mais en Guyane, en Guadeloupe, dans les Outre-mer. Est-ce qu'on n'a pas l'impression du coup que c'est traité différemment, comme si c'était comme justement les familles, l'enfant n'avait pas la même valeur?
Intéressant comme question. Si je parle avec mon cœur, ça m'étonne pas en fait qu'il y ait ce type de propos que soit tenu et cette vision du monde qui fait que pour ces personnes-là c'est normal parce que ça a toujours été plus ou moins comme ça. J'ai l'impression, alors comment dire ça? J'ai l'impression qu'on a souvent été vu comme un peu la poubelle, mais presque, tu vois. On a certains politiciens, des magistrats qui sont d'Hexagone, mais qui viennent, ils sont pas top top, mais bon. Mais là, il y a des profs qui sont pas top top non plus, mais ils viennent et tout. Enfin, je suis désolé pour certains profs, mais moi j'ai eu des profs vraiment qui étaient pas top top. Et qui trouvaient des postes ici, enfin en Guadeloupe, sans problème. Alors moi, je pense qu'il y a une vision comme ça des Outre-mer, des Antilles, comme étant un peu des territoires un peu de seconde zone. Et donc du coup, c'est pas très grave si on fait ça. D'ailleurs, on voit bien avec le traitement de l'eau qu'on a chez nous. Bon, je vais pas parler de ce sujet, qu'on est un peu vu comme des territoires de seconde zone, quoi.
Il y a des choses qu'on peut se permettre, parce que c'est clairement ce qu'elle avait dit. Elle a dit que les personnes pouvaient se permettre ça, parce que c'était loin des yeux, qu'on ne le voyait pas.
Il y a un peu un truc un peu colonial, parce que il me semble qu'avant c'était le bagne étant en Guyane, donc et qu'il y a un peu ce truc de cette réflexion qui date du XVIIe siècle, tu vois, mais on n'en est plus là, quoi. Mais dans leur tête, dans leur façon de nous percevoir, il y a encore cet aspect-là. Et je trouve ça...
C'est pour ça que l'histoire est importante aussi. Parce que surtout l'histoire des institutions, et qu'on ne peut pas se passer de la connaissance de cette histoire et de l'analyse de cette histoire pour éviter de faire des choses comme qui deviennent en fait systémiques, comme envoyer des pédocriminels au sein des écoles guadeloupéennes parce que ce seraient des citoyens de seconde zone.
Bien sûr. Mais moi, je pense que de toute façon, les réflexes coloniaux comme ça... il y en a mais énormément, la façon dont on voit le préfet, comment le préfet, on dirait un gouverneur, tu vois, les gouverneurs à l'époque de la colonisation. Il y a des vieux relents encore aujourd'hui de fonctionnement colonial dans les Outre-mer et en Guadeloupe particulièrement. On l'a vu dans 2009 quand il y a eu les grèves contre la vie chère, etc. en Guadeloupe, ça a mis en évidence des fonctionnements encore colonial, une vision coloniale de comment on gère nos territoire. Donc non, ça me... Je suis ni choqué ni déçu par ses propos. Je sais très bien que c'est ce qu'il pense. Donc
Et toi, alors, du coup, qu'est-ce que tu comptes faire? T'as des projets? Tu comptes rentrer en Guadeloupe? Parce que c'est toujours la question, comme on disait tout à l'heure, il y a l'espèce de fantasme quand même des personnes qui ont immigré ou qui sont issues de l'immigration, de revenir un jour pour faire quoi, on ne sait pas trop, mais avec un projet et une envie de revenir.
Ben, en fait, il y a même une pression. Il y a une pression des gens de là-bas. Qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais? Rentre. C'est quand que tu rentres. Et c'est que ça met un peu la pression, tu vois, de se dire, je sais pas, j'ai construit une vie ici, j'ai des attaches, etc. Aujourd'hui, ma vision, elle a quand même pas mal changé. Bon, il y a ma femme dans le public, je vais pas trahir des trucs, mais moi, ma vision, elle a pas mal changé sur ce sujet. Je crois plus qu'il y a tant de choses qui me retiennent que ça. Et je suis beaucoup plus ouvert à un retour aujourd'hui, par exemple. Là, je vais rentrer pour plusieurs mois, pour des raisons familiales et tout, prochainement. Et ce sera l'occasion aussi de voir comment ça se passe, quand on reste plus longtemps que juste 2-3 semaines de vacances, comment ça se passe. Mais moi, c'est quelque chose, moi, je suis pas opposé. Mais je pense que c'est pas non plus une nécessité. Je pense qu'il faut pas que les gens qui sont à l'extérieur se disent qu'ils ne sont plus Guadeloupéens ou Martiniquais ou Guyanais ou Réunionnais ou quoi. Vous avez le droit aussi d'être expatrié, vous avez le droit aussi de vouloir avoir une vie différente. Vous n'êtes pas s'il n'y a pas d'obligation, personne n'a le droit de vous dire où vous devez vivre, où vous devez vous sentir bien. Ça, c'est important de le dire aussi, de dramatiser là-dessus. Vous n'êtes pas des traîtres parce que vous vivez ailleurs. Et vous représentez aussi vos territoires là où vous êtes, à votre poste, avec ce que vous faites. Et même si c'est parce que vous repartagez des trucs, ou parce que vous parlez votre langue, juste parler le créole avec votre compagne, votre compagnon, vous apprenez le créole à vos enfants. C'est aussi très très bien, et ne vous sentez pas obligé d'agir comme on voudrait que vous agissiez, et surtout parce que parfois on se sent forcé, on rentre et on est déçu, on est amer parce qu'on se dit qu'on est bloqué. Je connais beaucoup de gens qui ont vécu ça. Donc si vous rentrez, c'est que vous avez envie de rentrer et pas pour faire plaisir à des gens hypothétiques, voilà.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la pression aussi qu'on peut avoir, que ça soit de l'extérieur ou même en interne, et ou même au sein de la famille. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent, même des questions d'identité, les questions de la langue, les questions de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi.
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on transmet aussi à nos enfants?
La question de la transmission, c'est quelque chose d'important quand on vit en France hexagonale. La question, c'est est-ce que mes enfants, je leur apprendrai le créole? Est-ce qu'ils seront des petits Parisiens? Je n'ai rien contre les petits Parisiens, mais je veux dire, est-ce qu'ils seront des petits Parisiens? Non, je veux dire, est-ce qu'ils seront dans leur tête? Est-ce qu'ils comprendront qu'ils sont certes nés à cet endroit, mais qu'ils ont leurs racines là-bas et qu'ils ont une double culture? Et est-ce qu'ils vont l'embrasser? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tiraillés, qui se disent, mes parents sont Guadeloupéens, mais j'ai jamais appris le créole, je ne suis jamais allé en Guadeloupe. Est-ce que je suis Guadeloupéenne? Est-ce que je suis Guadeloupéen? Un questionnement identitaire. Donc, c'est le rôle des parents aussi de faire de la transmission et d'expliquer aussi et de venir pour montrer à leurs enfants. C'est important.
On va s'arrêter là. Ouais. On continuera la discussion plus tard.
Ouais.
C'est ce qu'on s'est dit.
Yes.
Donc, je te remercie en tout cas.
Merci à toi.
Et Fiv, à très bientôt, j'espère.
À bientôt.
Vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le, partagez autour de vous, suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.